Rebonjour à tous. Sujet de cette conférence, c'est une question épistémologique. J'ai eu envie, comme la question c'était les perspectives de l'historiennomie, de réfléchir justement à quelles sont ces perspectives en tant que science, puisque vous savez qu'un des principaux problèmes que je peux avoir à l'extérieur de ce groupe de gens extrêmement subtils qui comprennent ma démarche, je me heurte à beaucoup de gens qui parlent de charlatanisme, de Madame Irma, de Madame Soleil, et ce genre de choses. Ou de zététiciens qui me prennent comme tête de turc pour m'expliquer que ce que je fais, c'est pas de la science parce que c'est pas publié ou que sais-je, alors que je fais des bouquins, j'estime que c'est publié. Mais donc ça m'a paru intéressant. En fait, juste au moment où je cherchais comment aborder le sujet, je suis tombé sur ce même que j'avais déjà vu plein de fois sur Internet, et je me suis dit c'est une bonne introduction pour expliquer, refaire un petit peu. Je vais pas vous refaire toute l'histoire de l'historiennomie parce que déjà ça serait un peu trop centré sur la personne et puis ça serait un peu long. Mais je me suis dit que c'était intéressant de voir dans quelle mesure la façon dont je travaille depuis le début précisément répond à cette méthode-là, et donc, si vous voulez, empiriquement, comment est née l'historiennomie et en quoi la façon dont elle est née et dont elle continue à évoluer répond à ce qu'on considère habituellement comme étant la méthode scientifique, c'est-à-dire la procédure standard de réflexion scientifique, qui, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens qui ne font pas de science, mais qui pensent pouvoir juger de ce qu'est la science, n'est pas quelque chose d'absolu. C'est-à-dire, il n'y a pas une espèce de point de départ scientifique qui serait déjà lui-même scientifique et sur lequel se bâtirait toute la science. En soi, la science, c'est une démarche qui, par récurrence progressive, finit par construire des fondamentaux de la connaissance qui sont cohérents, sur lesquels on peut élaborer. Mais à la base, je vous rappelle à tous que nous sommes des primates, qu'on n'est pas nés avec un début de science sur lequel on aurait commencé à tout construire. Donc forcément, quand vous essayez de vous lancer dans une démarche scientifique qui va dans un nouveau sens, quelque chose qui n'a pas été traité, qui n'a pas de fondamentaux, qui n'a même pas de méthode a priori, que vous devez tout construire, eh ben vous découvrez tout de la même manière que les toutes premières sciences sont nées, que ce soit l'astronomie, la biologie ou ces choses-là. Alors comment est née sont nés, on va dire, les prémices justement de l'historiennomie, mais par des observations. Donc j'étais comme ça, sur mon lit un jour, je réfléchissais, et je me disais des choses du genre, au fil de certaines lectures, hein, tiens, c'est marrant, les guerres du Péloponnèse, ça ressemble aux Premières et Deuxièmes Guerres mondiales. Ça a eu le même effet sur la civilisation grecque antique que sur la civilisation européenne. Tiens, c'est marrant, entre les Grecs et les Romains, c'était un peu les mêmes relations qu'entre les USA et nous, les Européens. Tiens, c'est marrant, la démocratie, elle s'installe à Athènes au même moment que la République à Rome, et c'est un peu donc comme la Révolution française et la Révolution américaine qui arrivent au même moment. Et bien sûr, au bout d'un moment, on finit par se dire, tiens, c'est marrant, mais tous ces parallèles, ils sont pas contradictoires entre eux, ils sont pas isolés, mais ça a l'air de former une espèce de système, ça converge dans le même sens. Donc, tout ceci amène une hypothèse, une première hypothèse, c'est que il doit y avoir quelque chose à chercher. Il doit y avoir une récurrence, une cyclicité historique. C'est pas quelque chose de base sur lequel je suis parti. Pourtant, a priori, on doit pouvoir appliquer une méthode d'analyse comme ça à l'histoire, mais c'est que déjà, il y a une première observation qui, en soi, justifie ça. Et donc, à partir de là, alors le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens, quand ils font des observations comme ça, s'arrêtent à l'observation. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait souvent dans un certain nombre de domaines. Ne serait-ce que parce qu'on n'a pas le temps de chercher ou parce que c'est pas intéressant, on peut faire une observation qui est une intuition intéressante, mais on va pas chercher plus loin. Bon. Ce qui caractérise déjà la démarche scientifique, c'est que vous allez commencer à creuser, vous allez vous y intéresser, vous allez chercher. Et donc, par la suite, j'ai commencé à chercher, j'ai fait, donc on peut considérer que les premières prédictions, c'est l'idée qu'on allait trouver d'autres récurrences. On en trouve et au fur et à mesure, ça se confirme. Et donc, ce que je voulais, c'était vous donner quelques exemples, parce que en fait, ce cycle, naturellement, il se produit, il se reproduit, il se reproduit, et c'est en continu. C'est-à-dire, c'est encore ce que je suis en train de faire. Et je voulais vous donner quelques exemples de la façon dont ça a marché, concrètement. Alors, par exemple, pour les fondamentaux, les choses dont je parle le plus, donc que vous devez maîtriser le plus, c'est la trajectoire de construction nationale, qui est quelque chose que j'avais développé dans la structure de l'histoire. Intéressant la façon dont la structure de l'histoire a été écrite, précisément. C'est-à-dire qu'à la base, C'était uniquement un petit texte de 5-6 pages que j'avais fait, qui, parce qu'un jour je m'étais dit justement, tiens, c'est marrant, la France et l'Angleterre ont l'air d'avoir connu exactement la même révolution, mais en retard. Bon, à ce moment-là, c'est arrivé à peu près en 2012, donc j'avais déjà un a priori, ça faisait 10 ans que j'avais commencé à formuler les cycles de civilisation en soi, hein, sur le modèle que je viens de vous expliquer. Et donc, j'étais déjà un petit peu plus entraîné, disons, j'avais un peu plus un réflexe à aller creuser dans ce genre de direction. Donc, à ce moment-là, donc ça, c'est l'observation. Donc, la question, c'est est-ce qu'il est possible d'établir un schéma avec l'hypothèse qui est celle de la possibilité de construire un schéma universel, en fait, qui pourrait s'appliquer absolument partout. Donc, la prévision qu'on fait à ce moment-là, c'est, ben, ça, c'est aussi important qu'il faut souligner sur la question de la prévision. Quand vous faites une prévision, souvent, les gens ont l'impression, et ça, c'est dû à la réputation notamment de la science moderne et des sciences dures modernes, la biologie, la physique, c'est l'idée qu'on peut fabriquer des expériences et que par définition, une expérience, c'est quelque chose que vous faites en labo, dans un milieu contrôlé, avec des variables contrôlées. Or, pendant l'essentiel de l'histoire de l'humanité, les expériences, c'était pas ça. L'expérience, c'est d'abord ce que vous vivez, ce que vous observez, sans que vous ayez demandé quoi que ce soit. Le meilleur exemple pour ça, c'est probablement l'astronomie, qui est probablement une des plus vieilles sciences de l'humanité. Tous les peuples ont regardé dans le ciel la nuit et ont essayé de trouver qu'est-ce qui gouvernait les lois du ciel, finalement. L'expérience en astronomie, c'est pas vous qui décidez quand vous allez lancer une simulation pour voir ce que ça donne. Vous attendez, vous voyez des choses, et c'est quand vous le voyez l'année suivante que vous vérifiez que les choses sont récurrentes. Donc, en soi, quand vous allez chercher, quand vous avez une hypothèse sur une partie des données et que vous allez chercher dans le reste des données, si vous retrouvez cette hypothèse qui se reproduit là où vous attendriez à ce qu'elle se reproduise, en soi, c'est une expérience. C'est-à-dire que c'est une observation qui est dirigée sur certains points en particulier pour vérifier quelque chose. Donc, naturellement, ce que je me suis dit à ce moment-là, c'est on devrait retrouver les grandes lignes de ce schéma qu'on peut déjà bâtir et qui est très, très resserré, finalement. La proximité est très, très forte entre la trajectoire française et la trajectoire de l'Angleterre. On devrait retrouver les grandes lignes dans les pays voisins. Donc la première expérience que j'ai faite pour ça, c'est d'aller chercher dans les trajectoires allemandes et espagnoles. Et à ce moment-là, vous avez des résultats. Alors les résultats, soit ça peut confirmer et vous permettre de théoriser, soit ça va rejeter l'hypothèse. Souvent, ça fait un petit peu les deux. C'est-à-dire que vous pouvez tomber sur du oui et du oui mais. Et en l'occurrence, je suis tombé sur du oui et du oui. C'est-à-dire, par exemple, que pour ce qui concernait l'Espagne, comme l'Allemagne d'ailleurs, il y avait certaines choses qui apparaissaient de la même manière, mais pas exactement pareil. Par exemple, en Allemagne, la diète mise en place par Maximilien à partir de 1495 avec la Reichsreform, il y a une proximité qu'on peut établir avec le Parlement modèle britannique et le Parlement et les États généraux français. Mais ensuite, dans l'histoire de l'Empire, ça n'a pas un rôle qui est aussi central. Donc, vous commencez à voir que vous allez retrouver les mêmes structures, mais avec des nuances. Donc, forcément, ça permet néanmoins de confirmer qu'il y a une possibilité de théorie de la construction nationale, mais qui doit être affinée. Et donc, à ce moment-là, vous élargissez l'observation. Alors, bien sûr, j'avais rajouté la Russie. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est ensuite de se demander, est-ce que ça sort, si on sort de la même civilisation, ça marche toujours? Alors donc à nouveau, hypothèse, ça devrait marcher. Donc prédiction, on devrait retrouver par exemple la même chose, par exemple une question de représentation nationale qui permet de sortir de l'ordre féodal. Et là non, là on ne trouve pas.
On va regarder la trajectoire au Maroc, la trajectoire en Turquie, la trajectoire en Iran, on ne trouve pas de représentation nationale aussitôt, il y a 4 ou 5 siècles, on n'en trouve rien. Donc ça forcément, ça invalide.
Je ne suis pas resté sur mon idée, mais si on doit trouver et absolument trouver quelque chose qui correspondrait, clairement, ça n'y est pas. Donc, dans ce cas-là, vous réfléchissez, vous essayez de formuler une nouvelle hypothèse, hein, donc reject hypothesis, vous revenez sur une nouvelle hypothèse. La nouvelle hypothèse, vous cherchez qu'est-ce que ça peut être. Alors là, je me suis aperçu, qu'est-ce que ça a permis, le Parlement modèle, les États généraux, dans tous les cas, ben, ça permet la levée de l'impôt par l'État et ça permet la mise en place d'une armée permanente. Donc c'est ce couple impôt-armée permanente. Et donc la nouvelle hypothèse, c'est que l'important, c'est qu'à un moment, il y ait un moyen, qui peut être la mise en place d'une représentation nationale ou pas, d'avoir ce corps armée-impôt permanent qui fait une transition vers l'apparition de l'État. Et là, si vous allez chercher, si vous vous souvenez un petit peu ce que j'ai pu dire là-dessus, vous apercevez qu'effectivement c'est le cas. Simplement, le modèle de l'armée permanente, que ce soit encore une fois au Maroc, en Turquie, en Égypte ou en Iran, ça a fonctionné dans le monde arabo-musulman par le système de l'esclavage militaire. C'est la mise en place des janissaires, des goulams, des mamelouks, etc. C'est-à-dire, c'est toujours le même système. À partir du moment où vous avez une capacité à mettre en esclavage une partie de la population aux fins de construire une armée permanente, forcément, l'armée permanente vous coûte beaucoup moins cher, vous avez moins besoin des rentrées d'argent. Donc, cette transition peut se faire, et l'impôt ensuite vous vient de ce que vous avez déjà, votre corps d'armée permanente, qui vous permet ensuite d'aller chercher l'impôt. Donc, ça transforme, ça, forcément, la théorie, puisque vous vous rendez compte que c'est ce point-là qui est important, et que le chemin qui peut être pris pour arriver à ce résultat, c'est le même, mais vous avez un modèle, forcément, en arrivant, qui est déjà plus précis, et qui est plus facilement exportable, on va dire, à l'ensemble des autres cas. Donc, vous dites, ce qui est important, donc, c'est la centralisation des ressources qui permet la transformation de l'outil de l'État impérial. Il peut donc prendre la forme de mobilisation des classes sociales, ou esclavage militaire, ou peut-être à d'autres endroits, d'autres choses, mais je vais pas détailler ça. Donc, vous voyez qu'il y a une véritable évolution dans ce sens-là. Il ne s'agit pas juste de prouver de manière forcée que ce qu'on a déjà est vrai, mais qu'on évolue et qu'on change. Autre exemple beaucoup plus récent, c'est ce que j'ai fait dans la démarche qui a conduit à la rédaction d'Ile Caesar. C'est extrêmement intéressant. Dans la structure, justement dans le cadre de la recherche de construction nationale, je m'apercevais qu'il y avait diverses révolutions. Il y en a certaines, comme ce que j'appelle désormais la révolution nationale, concernaient des nations qui aboutissaient à des États-nations parlementaires classiques, des grands États européens, mais qu'il y avait d'autres types de révolutions différentes qui aboutissaient, elles aussi, à quelque chose qui ressemblait, généralement des républiques marchandes avec un organe délibératif, etc. C'est le cas de la République romaine, c'est le cas de Carthage au début, etc. Donc, ça semblait vraiment être un modèle alternatif. Et donc, c'est comme ça que j'avais défini ceci comme idée de la révolution indépendantiste, qui serait un modèle alternatif de
la construction d'État-nation. Donc, en fait, si vous voulez, là, l'observation, c'était, il y a plusieurs types de révolutions. La question, c'est, est-ce que le régime parlementaire est ce à quoi ça aboutit? Et donc, l'hypothèse, c'était qu'une révolution indépendantiste débouche sur un État-nation achevé, et donc, c'est un mode de construction alternatif de l'État-nation mature. Donc la prédiction qu'on pouvait faire sur cette base, sur cette nouvelle hypothèse, c'était que les pays qui sont issus d'une révolution indépendantiste, ils doivent vieillir avec la même stabilité que les États-nations parlementaires âgées. Parce que vous savez qu'un État-nation parlementaire, généralement, il ne bouge pas, il reste un État-nation parlementaire. C'est le cas de l'Angleterre, par exemple, dont le régime n'a pas bougé depuis 300 ans. Alors, il y a bien sûr des exceptions, comme la France, qui sont envahies par les Allemands, donc à plusieurs reprises, le régime est caché. Mais si vous prenez un exemple pur, on va dire, et que vous isolez la variable de la perturbation extérieure, s'il n'y a pas de perturbation extérieure, un régime, il vieillit de manière tout à fait normale. Sans évoluer, c'est une espèce de stade terminal, je n'aime pas trop cette fonction parce qu'ensuite ça évolue vers autre chose, mais c'est très très lent et très très stable. Donc, forcément, a été fait cette expérience de savoir si les pays issus d'une révolution indépendantiste vieillissaient pareil, et je me suis replongé dans la trajectoire américaine, les provinces unies, Carthage, Rome, etc. Et le résultat de cette expérience, cette nouvelle expérience, ce qui montre aussi qu'une expérience, ça peut être simplement le fait de revenir, mais de manière plus approfondie sur des données que vous aviez déjà, parce qu'en fait, j'avais déjà regardé vite fait la trajectoire, encore une fois, de Venise, etc. Mais à partir du moment où vous n'avez pas encore l'outil d'analyse intellectuelle pour voir ce que vous voyez, le fait de repasser dessus une fois que vous avez fabriqué un certain nombre d'outils, ça vous permet de voir des choses que vous ne pouviez pas voir avant. Donc c'est ça aussi qui est très important, c'est que dans le cadre de l'expérimentation par l'observation, le fait de revenir sur des choses que vous aviez déjà analysées avec vos nouveaux outils régulièrement, ça permet de retrouver de nouvelles choses. Donc là, en l'occurrence, ce dont je me suis aperçu, c'est que, je parle de par exemple, et au bout de 200 ans, vous avez une mutation absolutiste et vous avez typiquement une révolution nationale. Donc, ça voulait dire que la révolution indépendantiste peut être suivie plus loin d'une révolution nationale, ce qui est curieux. Mais ce qui est encore plus curieux, c'est que, pour le coup, en faisant ces vérifications, je m'aperçois que c'est pareil pour Carthage. Puisque vous avez l'équivalent de révolution nationale au moment des guerres d'Hannibal. Et que, vraisemblablement, c'est pareil pour Rome. En même temps, ça m'a permis enfin d'interpréter correctement la trajectoire de Rome, que je voyais toujours un petit peu sui generis. Donc j'ai compris qu'il y avait aussi cette possibilité de révolution nationale. Ça, c'est à peu près au moment de Dioclétien, ça se fait, puisque la naissance de l'Empire romain, c'est en réalité l'entrée dans l'absolutisme. Et ce qui se passe, la crise du IIIe siècle, en réalité, c'est une révolution nationale à l'échelle de l'Empire romain. Donc à partir de là, on se rend compte, un, que la première théorie n'était pas bonne, c'est-à-dire que c'est pas un mode alternatif de construction d'un État-nation parlementaire, Mais on peut formuler, donc, on rejette l'hypothèse, mais on peut formuler une nouvelle hypothèse, pour le coup, qui est qu'en fait, tout simplement, ces états-là reviennent sur le mode classique de construction d'état-action, car en réalité, ça correspond simplement au moment où va apparaître l'entité indépendante. Et en fait, si vous prenez la trajectoire de Florence, par exemple, la cité florentine, donc j'avais montré une structure qu'elle avait une révolution nationale au XVIe siècle, enfin, fin du XVe, début du XVIe siècle, vous vous apercevez que elle prend elle aussi son indépendance de l'Empire, ça peut correspondre à la révolution indépendantiste, mais extrêmement tôt. C'est-à-dire que elle se détache de manière assez souple de l'Empire romain germanique. Et d'une certaine manière, si vous êtes en raisonnement, vous apercevez que c'est ce qui arrive à la France aussi, puisque la France se détache de l'Empire carolingien, une partie des premiers siècles sans histoire jusqu'à Philippe Auguste, qui consiste en une recherche d'indépendance vis-à-vis du Saint-Empire romain germanique. Et donc, en fait, la nouvelle mise en place théorique, c'est tout simplement que l'indépendance de l'entité politique qui va évoluer comme état-nation parlementaire peut arriver plus ou moins tôt. Quand elle arrive très très tôt, ça se voit pas comme une prise d'indépendance, ça paraît une évolution naturelle. Quand elle arrive plus tardivement, c'est-à-dire qu'elle commence déjà à avoir une identité un petit peu plus construite, et bien à ce moment-là, ça donne lieu à ce qui ressemble à une révolution indépendantiste, mais ça n'accouche pas d'un état-nation mature. C'est un état-nation qui va encore continuer à chercher ses frontières, comme les États-Unis, hein, qui sont étendus fortement après l'indépendance américaine, et comme les autres exemples que j'ai cités. Donc à ce moment-là, ça fonctionne et ça permet de décider que la nouvelle théorie, c'est que la révolution indépendantiste est une simple voie alternative de construction nationale, et qu'en fait, donc, ça dépend simplement du moment où l'indépendance a été prise. Je pense que vous voyez comment fonctionne ce système de réflexion par récurrence, et c'est vraiment comme ça que je travaille toujours. Il y a d'autres idées qui sont apparues comme ça. Par exemple, je me suis interrogé sur la construction d'État-nation italienne, par exemple. Ça, c'est dans le bouquin sur la chute de l'Union européenne, de l'Empire européen, que j'expliquais qu'il y avait un modèle particulier qui est le modèle tardif de construction, c'est-à-dire l'unification nationale qui se fait au 19e siècle pour l'Italie comme pour l'Allemagne, alors que pour les autres, c'était pas le cas. Donc, cette méthode scientifique, vous voyez, par récurrence, elle s'applique. Et la réalité, c'est que, contrairement à certaines critiques qui peuvent être faites à ma démarche, il y a énormément de pans de mes théories depuis 10 ans qui ont beaucoup évolué, en fait, certains sur lesquels je suis complètement revenu, que j'estime complètement dépassés, en fait, parce que les choses ont avancé, que de nouvelles observations qui sont rendues possibles par l'apparition de nouveaux concepts permettent au fur et à mesure d'affiner les choses, et je pense que ça va continuer, en fait, puisque c'est en croisant ça...
Je sais pas si Antoine vous en reparlera tout à l'heure, mais en croisant ça avec d'autres systèmes de recherche en matière de théorie historique, je pense qu'on va continuer à avancer dans ce sens-là. Donc ça, c'est le premier point que je voulais aborder avec vous.
Et il y a une autre chose donc sur laquelle je voulais parler et réfléchir, c'est la question donc qui est en lien en fait avec ça, mais faire un petit focus dessus, sur la question de la réfutabilité, puisque c'est aussi ceux qui me font ce reproche souvent sont les gens qui s'intéressent uniquement. Ça arrive ça au mois d'août septembre 2020, donc forcément quand je vois le déploiement russe en avril 2021 autour de l'Ukraine, je dis cette fois c'est sûr. Et non. Mais ensuite, quand vous voyez à nouveau un déploiement en novembre, quand vous faites la première émission de la chaîne, vous dites « Cette fois, ça a l'air sûr, mais je suis pas sûr, puisque la dernière fois, j'étais sûr. » Et cette fois, c'était sûr, mais on pouvait pas le savoir juste avant. Donc souvent, il y a des décalages comme ça. Et donc, le premier objet que je peux faire à ceux qui pensent que je tiens pas assez compte des contre-indications du réel, c'est que souvent, ces contre-indications du réel sont simplement temporaires. C'est des retours, c'est parce que on a des concerts de délai. Si dans 10 ans il n'y a toujours rien eu sur un certain nombre de sujets, je serais prêt à reconsidérer. Pour l'instant, non. L'exemple a montré que souvent je me trompe de 2-3 ans. Bon, donc on continue comme ça, on va attendre 2-3 ans pour la Révolution française aussi, et on verra ce qui se passe, même si ça a commencé. J'en reparlerai probablement tout à l'heure.
Donc la question du manque d'exemple et de réfutabilité, du manque du problème de réfutabilité, je pense que c'est un problème qu'on peut écarter, parce qu'en revanche, comme je l'ai dit, et c'est l'avantage de l'observation et de l'expérience qui est faite sur les données du passé, comme je viens de vous le montrer, là, la réfutabilité, elle est très nette. Chaque fois que je suis tombé sur un contre-exemple, j'ai changé la théorie, et la théorie a progressé. Ça l'a pas affaibli, mais au contraire, à la fin, on a eu quelque chose de plus solide et qui fonctionne mieux. Et je voudrais terminer, le dernier point que je voudrais aborder, c'est sur la question qu'on m'a posée, et comme je crois que j'ai jamais répondu là-dessus en vidéo, ça sera bien de l'avoir en conférence, c'est sur la question du manque d'exemples, notamment en particulier quand on parle des grands cycles de civilisation, parce que c'est vrai, il faut le reconnaître, une faiblesse du travail, là j'y peux rien, c'est les données, c'est le faible nombre d'exemples, parce que on a deux exemples à peu près complets des grands cycles de civilisation ABCD. C'est celui de l'Antiquité et celui de l'ère moderne. Et encore, celui de l'ère moderne n'est pas tout à fait fini, il est en cours. Celui de l'Antiquité, il est complet, d'accord. On peut rajouter le troisième, qui est celui de la plus haute Antiquité, ce que j'appelle le premier âge, mais qui est forcément encore plus ancien et qui lui pêche par beaucoup de manque de données, parce qu'on n'a nettement pas autant de données que pour le premier cycle. Et donc, plusieurs personnes sont venues me voir souvent en me disant le problème, c'est que, voilà, comment est-ce que vous pouvez être affirmatif avec ça? Alors j'avais quelques réponses à ça. C'est-à-dire qu'en fait, si vous résumez, vous avez 2,5 exemples des grands cycles de civilisation, donc ça peut paraître un peu court. Donc la façon dont je vais revenir là-dessus, c'est que précisément depuis que j'ai fait ça, à l'époque on peut considérer que c'était assez faible. Mais en réalité, les choses ont énormément progressé, puisque entre-temps, il y a eu la construction du modèle de construction nationale. Je me suis aperçu, et vous vous souvenez peut-être, j'ai fait une conférence fleuve là-dessus qui avait duré 3 heures sur la mécanique de l'histoire au début de l'année, où j'essaie de synthétiser tout ça, qui montre qu'en fait, ces grands cycles de civilisation eux-mêmes ne sont que le produit, si vous le mettez en jeu, du phénomène local de trajectoire de construction nationale qui peut ou pas se déployer, notamment en raison des conditions géographiques, etc. Donc je détaille pas, mais l'idée, c'est que, à partir du moment où vous avez d'accord que 2,5 exemples, mais que vous pouvez montrer qu'ils sont composés de sous-modèles, que je viens d'évoquer, et pour lesquels cela, on a 30 ou plus d'exemples, parce qu'en réalité, des modèles documentés aujourd'hui, dans les faits de construction nationale, on a bien une trentaine d'exemples. Dans les impérialistes revanchards, c'était plus d'une vingtaine déjà que je détaillais, mais au total, depuis, on a travaillé sur d'autres pays, sur Bangladesh, sur l'Amérique du Sud, donc on voit que ça s'applique véritablement partout. À partir de là, vous avez un degré de certitude sur votre description théorique qui dépasse le fait que vous avez que 2,5 occurrences, parce que vous n'êtes pas juste sur 2,5 exemples qui se ressemblent, vous êtes sur 2,5 exemples avec une explication théorique totale de la façon de pourquoi ça s'est reproduit. C'est-à-dire que c'est pas juste que vous observez que ça se reproduit, et donc vous dites que ça se reproduira encore. C'est que vous observez que ça se reproduit, que vous avez compris, que vous savez pourquoi ça s'est reproduit. Et donc à partir de là, vous dites que ça se reproduira encore, parce que, à l'échelle inférieure, on voit que les choses se reproduisent encore de la même manière. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus sûr de ce que je disais dans l'histoire du siècle à venir, sur la structure, ce que j'ai appelé le modèle ABCDE, c'est-à-dire les grandes civilisations, qu'à l'époque d'Ashsav, donc de l'histoire du siècle à venir, parce que à l'époque, j'ai pas plus d'exemples qu'à l'époque, hein, puisqu'on n'a pas progressé il s'est pas passé tellement de temps pour notre cycle, et on n'a pas progressé dans la connaissance des cycles anciens, même si pour l'époque archaïque, on a de plus en plus de données, mais parce que l'intérieur du modèle est considérablement enrichi. Donc, et ça, c'est une chose très importante, parce que beaucoup de gens qui vous parlent de preuves scientifiques, ne comprennent pas et n'admettent pas, sont un petit peu déformés dans leur vision des choses, précisément par la réputation. La science à l'ère moderne, c'est les sciences dures. C'est-à-dire, c'est encore une fois la science où vous pouvez faire une expérience en labo, etc. Donc c'est la preuve empirique, la preuve pratique qui vient vérifier ce que vous voulez. Et le problème, c'est que les gens oublient qu'il y a un autre élément de preuve qui est très important et qu'on connaît depuis très longtemps, c'est la preuve intellectuelle. C'est-à-dire le fait que vous pouvez démontrer intellectuellement que quelque chose est au moins probablement vrai. Alors scientifiquement, ça n'a peut-être pas forcément la même valeur qu'une preuve empirique pratique qui a été vérifiée, mais en général, dans la démarche scientifique, si vous avez réussi à obtenir au moins une preuve intellectuelle de quelque chose, vous le tiendrez pour vrai jusqu'à preuve empirique du contraire. C'est le minimum de la démarche. C'est ça qui fait qu'ensuite, vous aurez quelque chose à tester. Donc dire que quelque chose n'est pas vrai parce que c'est pas encore prouvé, alors que intellectuellement vous voyez que c'est cohérent et que c'est la meilleure explication que vous avez, c'est une erreur intellectuelle. Et notre problème, je vais terminer comme ça, je suis un petit coin de ce qu'on me reproche, mais c'est fondé et c'est expliqué par ce que je vous dis, et justifié par ce que je viens de démontrer sur l'utilisation de la démarche scientifique, c'est que Vous avez beaucoup de gens qui, j'ai beaucoup de gens que je croise qui me disent qu'est-ce qui vous ferait penser que vos théories sont fausses? Ça aussi, c'est une mauvaise explication, une mauvaise compréhension de ce que c'est que l'expérience, que l'expérience, en science, on parle d'experimentum crucis, c'est l'expérience cruciale. C'est-à-dire, c'est ce que vous recherchez toujours quand vous cherchez à prouver empiriquement quelque chose que vous avez démontré déjà intellectuellement ou que vous pensez intellectuellement, c'est que vous allez chercher justement quelle serait l'expérience qui vous permettrait d'infirmer ou de confirmer votre hypothèse. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas qu'il n'y a pas d'experimentum crucis pour dire si la physique est vraie ou pas. Vous n'avez pas une expérience qui vous dit toute la physique est vraie ou toute la physique n'est pas vraie. Vous pourrez aller vérifier des choses, mais vous ne pouvez pas vérifier en soi que le concept de physique, l'idée que vous puissiez appréhender le réel par des lois, est faux. Ça paraît extrêmement compliqué. Donc ça aussi, c'est une objection à laquelle je suis obligé de m'affronter régulièrement, mais c'est une objection qui existe malheureusement. Et je pense que vous y serez confronté aussi, puisque l'idée de ces conférences et de la chaîne en général, c'est de diffuser un petit peu tout ce que je raconte, parce que ça vous intéresse, je sais que vous avez un certain nombre à en parler, et je me disais que c'était important de vous parler de tout ça pour que vous sachiez aussi quoi répondre à ceux qui vous disent « Oui, mais l'historiognomie, c'est pas une science. » Alors, c'est pas une science encore aux sciences institutionnelles. On n'a pas encore de revue, on a un congrès, maintenant. On aura peut-être d'autres choses. Une revue, on va y travailler. On est en train d'y réfléchir déjà. On va essayer d'institutionnaliser ça. Mais l'important pour moi, la priorité, c'était de construire assez théoriquement tout ça. Et je jette un regard sur ce qui s'est passé ces dernières années, je me rends compte, avec toutes les évolutions que beaucoup d'entre vous ont suivies, d'ailleurs, et je vous remercie de ça, c'est très important, puisque beaucoup des évolutions que j'ai évoquées, vous étiez là, en fait. Tout ce que j'ai dit sur Alcizar, tout ce que j'ai dit, tous les bouquins qui sont parus depuis que la chaîne a été ouverte, c'est une réflexion que j'ai fait en votre compagnie, je vous en remercie. Elle vous doit quelque chose. Et donc, je tiens vraiment à ce qu'on puisse continuer à avancer dans ce sens-là, et pour ça, c'est important de montrer que, de rappeler déjà que les scientifiques, ceux qui répondent à la démarche scientifique, ceux qui obéissent, et c'est le cas de l'historiognomie, j'espère vous l'avoir montré maintenant.
Est-ce que tu vois des parallèles entre l'histoire jeune, l'histoire de l'astronomie, aussi, si t'avais intéressé un truc, est-ce que t'as l'impression qu'il y a d'autres sciences qui ont précédé, ou d'autres domaines qui ont précédé, qui ont connu un peu les mêmes butées avant de finir d'être acceptées comme étant une réalité institutionnelle et scientifique?
Honnêtement, c'est difficile à dire. Je peux penser que beaucoup dans les sciences sociales, sans doute. Je pense que la question de la sociologie a mis un moment à s'imposer, par exemple. Elle a encore des difficultés, d'ailleurs. Mais le problème là-dessus, c'est que c'est finalement très très récent et très inédit, la conception très étriquée, en fait, de la science. C'est-à-dire que je pense que le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce qui caractérise les nouvelles démarches scientifiques aujourd'hui, c'est que elle se heurte au scientisme, qui pour le coup est une chose qui est tout à fait nouvelle. C'est-à-dire, il n'y avait pas de scientisme dans l'Antiquité, hein. À l'époque des Grecs, vous pouviez parler de tout, personne n'a accusé Aristote d'avoir des failles de méthode ou de pas être publié dans une revue à comité de lecture, c'était déjà des choses. Donc tout l'aspect, la science institutionnelle, c'est quelque chose de très moderne, et l'avantage qu'a eu la sociologie et sans doute d'autres disciplines du même genre, c'est que ce sont des disciplines qui sont apparues en même temps qu'apparaissait ce système de la science institutionnelle, et donc a construit son propre système à côté, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est considéré assez facilement comme une science, et comme une démarche scientifique. La difficulté de l'historiognomie, c'est effectivement qu'il s'agit de faire quelque chose de nouveau. Alors, il y a aussi des questions, j'ai envie de dire, publicitaires. Est-ce que c'était une bonne idée d'appeler ça l'historiognomie? Est-ce qu'appeler ça histoire théorique, c'est mieux ou pas? Je ne sais pas, honnêtement. Historiognomie, ça sonne bien, moi j'aime bien. Histoire théorique, ça parle peut-être plus aux gens, parce que ça permet de s'appuyer déjà sur la scientificité de l'histoire en soi. C'est-à-dire de dire, l'histoire ramasse les données, c'est le côté empirique, et ensuite on essaie de théoriser par-dessus. J'essaie aussi d'alterner un petit peu les deux, à la fois pour montrer que l'historiognomie, c'est quand même un petit peu différent, mais c'est déjà plus de l'histoire. Et ça aussi, c'est votre problème, en fait. C'est que il s'agit de quelque chose de nouveau, mais comme extension de quelque chose d'existant. Et ça non plus, je le vois pas trop. Alors, peut-être, il faudrait que je vérifie. Il y a eu des difficultés, sans doute, malgré tout, autour de certaines considérations de la physique théorique. Ça fait toujours prétentieux, je ne vais pas me comparer à Albert Einstein, mais quand vous regardez, justement, le genre de choses qu'on a pu lui reprocher sur le fait qu'il affirmait des choses sans preuve, ça a été beaucoup le cas pendant longtemps, où on lui disait, vos expériences de pensée, preuve intellectuelle, typiquement, c'est très bien, mais enfin, ça ne s'appuie sur rien, ça ne prouve rien. Alors, il faut aussi se méfier de ne pas évacuer la nécessité de la preuve, puisque, par exemple, on le voit aujourd'hui en physique, il y a des très grosses théories qui ont été construites, comme la théorie des cordes, etc., auxquelles les physiciens reprochent en même temps de ne pas pouvoir donner de preuves empiriques. Mais c'est vrai que la problématique à laquelle on fait face est très très spécifique, donc j'ai du mal à trouver un parallèle exact, et d'autant plus spécifique que l'histoire, c'est une chose, beaucoup de gens pensent pouvoir en dire quelque chose, et en plus, comme l'histoire a une autre difficulté par rapport à la réalité physique, c'est que souvent l'histoire a des implications politiques, et donc il y a des affects qui entrent en jeu énormément, et qui sont un autre obstacle. Donc voilà, on a à peu près tous les obstacles possibles. Donc c'est bien, ça permet d'essayer de faire quelque chose de nouveau.
J'aurais voulu savoir s'il y avait une internationalisation de l'historiognomie, c'est-à-dire s'il y a des gens qui, comme toi ou comme nous, ont une manière de penser qui aboutit à la même réflexion et à la même mise en pratique que toi.
Alors, à la même nom, il n'y a pas de convergence non plus conceptuelle d'après ce que j'ai vu, c'est-à-dire que je n'ai pas retrouvé ce que je dis chez d'autres. En revanche, l'idée de penser que l'histoire est théorisable, ça oui, clairement.
Celui dont vous entendrez sans doute le plus parler, parce qu'il commence à être pas mal question en France, c'est Peter Turchin, avec l'idée de la cléodynamique, qui a quelques années d'avance institutionnelle, on va dire, sur moi, c'est l'avantage. Le truc, c'est ce que des zététiciens m'ont reproché en me disant, oui, mais regarde, il est publié, lui, dans une revue, je dis, oui, c'est sa revue. C'est-à-dire qu'il a créé sa revue pour ça, et il se publie dedans. Donc, effectivement, c'est vrai. Non, mais ça fait partie aussi des problèmes que les gens qui comprennent pas bien l'aspect sociologique, sociologie des sciences et création des clubs de pensée, des revues avec les gens qui s'entrecitent et qui donnent l'impression qu'il y a une espèce d'assise consensuelle alors qu'en fait ce sont des clubs. Ce qui pose absolument aucun problème d'ailleurs, mais il faut se rendre compte que c'est comme ça que ça marche. Et après, il y a tout un tas d'autres gens qui essaient de faire de la théorisation, hein. On peut penser à Strauss et Howe, on peut penser aussi à Augustin qui est un fan, je pense qu'il y en a peut-être d'autres d'ailleurs, certaines théories d'Emmanuel Todd, qui sont des choses, voilà. En fait, il y a énormément, de toute façon, dans la science et dans les sciences sociales depuis 50 ans, de tentatives de théorisation sur au moins des pans de l'activité humaine, en matière politique, économique, etc. Et je pense que l'avantage de l'historiognomie, c'est que ça peut servir de toiture ou de forum pour toutes ces interprétations qui viendraient trouver un moyen de s'emboîter les unes avec les autres, alors que c'est pas forcément évident à faire sans ça. Donc, je pense que il y a effectivement d'une certaine manière une démarche et une tentative de comprendre de manière scientifique les sociétés humaines depuis le milieu du XXe siècle, peut-être qu'avant, hein, si on pense à Gustave Le Bon avant, enfin il y a eu d'autres idées, mais véritablement il y a des choses qui se font. Et je pense que l'historiognomie est très bien placée pour évoluer au sein de ça et même devenir centrale là-dedans.
Parce qu'il n'y a pas une atmosphère plus favorable aujourd'hui, parce que après le structuralisme dont Emmanuel Todd est issu d'ailleurs, le post-structuralisme détestait tout ce qui était déterminisme, essence, substance, c'était le grand Satan. Mais aujourd'hui, dans l'atmosphère d'incertitude qu'il y a, est-ce que c'est pas plus facile? J'étais frappé en lisant vos ouvrages d'Héron. En parallèle, je lisais quelqu'un, que vous lisez d'ailleurs, Gabriel Martinez Gros.
Oui.
Qui, alors, universitaire à Nanterre, qui faisait ça à Feur et Moucheten, souvent dans la conclusion de ses ouvrages, mais il était, notamment dans cette, la notion d'empire, hein, assez dans ce déterminisme-là et ses structures. Et alors, c'était assez frappant, et je me demande si dans l'atmosphère, justement, de transition actuelle, et avec ce post-structuralisme un peu fuligineux qui est en train un peu de nous lasser, est-ce que l'atmosphère n'est pas plus favorable, justement, à revenir à cette recherche scientifique qui existait au 19e, qui n'a pas toujours marché, parce qu'au fond, Karl Marx, c'était ça aussi, hein, chercher des grandes structures. Mais donc, l'atmosphère est en train de changer.
Oui, alors je pense tout à fait. Je pense qu'il doit y avoir aussi une sorte d'effet de balancier où on admet plus ou moins le déterminisme dans certaines phases. Et la question du hasard et de la certitude est effectivement en train de revenir. Mais encore une fois, l'émergence et le goût qu'ont eu les médias pour Porter Sheen, je pense avant ça, ils se sont beaucoup intéressés à ce que racontait Nicolas Nassim Taleb, même si j'ai un avis mitigé sur le personnage, mais il y a des choses intéressantes. On est en train effectivement d'entrer dans ce genre de réflexion. Vous avez les structures fondamentales des sociétés humaines. Je crois qu'il s'intitule le livre aussi de Lahir, qui est un sociologue français, qui est très intéressant et qui lui aussi déplore le fait qu'on n'entre pas dans cette démarche intellectuelle de théorisation. Et qui cite beaucoup Alain Testard en soulignant que ce qui était intéressant chez lui, c'est que il avait une formation. Je crois qu'il était juriste comme moi d'ailleurs, Testard de base, et que les gens qui entrent dans les sciences sociales avec un esprit de système déjà sont plus enclins à rechercher ce genre de structure. Et donc d'une certaine manière, j'ai effectivement le sentiment que ça revient à la mode. Est-ce que c'est lié à l'incertitude des temps ou est-ce que c'est juste un effet de balancier régulé, je sais pas, mais clairement je pense qu'on entre dans un moment où on aura de l'espace intellectuel pour parler. Et puis il y a aussi une autre chose qui est l'affaiblissement et le discrédit un peu justement du système de production scientifique industrielle, quoi, on va dire d'une certaine manière, c'est-à-dire la nécessité de publication à tout prix. On s'aperçoit que en gros, plus il y a de gens qui font de la science et qui publient, moins on avance, parce que il y a des effets de saturation finalement dans l'attention. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont être pensées là-dessus. Il y a le système des publications qui a changé aussi avec Internet. Ça a un petit peu affaibli les revues traditionnelles et leur pouvoir d'influence. Il y a le désormais quand les chercheurs ont fait un papier, ils le publient directement sur Arxiv afin que ce soit disponible aux collègues chercheurs avant publication en fait. Donc on appelle ça la pré-publication, mais parce qu'en fait on revient à ce qui était en fait l'ordre des choses avant le système de publication, c'est-à-dire vous publiez, c'est-à-dire vous rendez juste lisible à tout le monde et vous attendez de voir ce que les gens viennent vous dire. On est en train de sortir aussi institutionnellement de ça, donc je pense que l'évolution est effectivement très profonde.
Bonjour Philippe.
Bonjour.
Merci pour cette présentation et pour également pour tes travaux. Merci à tous également toutes les personnes qui contribuent. Peut-être une question sur la manière dont l'historiographie s'articule avec d'autres sciences, comme par exemple la démographie, qui fait le même constat en fait qu'on assiste à des populations, mais je comprends que dans les cycles de on constate. Mais par exemple, les démographes, par exemple, eux sont moins certains que la dépopulation va continuer. Et par exemple, comment est-ce qu'on pourrait aujourd'hui rapprocher les cycles qui sont conçus dans le cas de l'historiognomie, avec d'autres sciences comme la démographie, par exemple, moins certains sur la manière dont les choses vont évoluer.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que mes conclusions et mes projections sur les questions démographiques se basent sur justement ce que disent les démographes en général. Donc, c'est parce qu'il y a un consensus relatif sur l'idée que la population devrait commencer à baisser. Alors, c'est difficile de savoir exactement quand, mais à peu près au tournant du prochain siècle, que j'ai rapproché ça avec les précédentes baisses qu'on a vues, et pour moi c'est cohérent avec les modèles pour les raisons que j'ai déjà expliquées sur les grands cycles de civilisation. Maintenant, clairement, encore une fois, l'historiognomie c'est de l'histoire théorique et de l'histoire et bon, forcément ça de l'histoire actuelle aussi, donc c'est aussi de la géopolitique théorique, on va dire. Ça s'appuie sur les données qui sont trouvées par d'autres. Donc je m'appuie sur les données des géopolitologues pour savoir l'état des pays actuels, je m'appuie sur les données des historiens pour savoir ce qui s'est passé avant. Donc sur une analyse, une projection démographique, moi je suis pas démographe, je m'appuie sur une donnée que j'ai et j'essaie de l'interpréter par rapport au modèle. Donc si ça changeait, bah encore une fois, ça veut dire qu'on aurait quelque chose de contraire et il faudrait rebasculer pour se reposer la question de savoir si c'est normal, si ça va arriver plus tard, etc. Donc il y a beaucoup de questions qu'il faut se poser là-dessus. Donc en soi, la démographie, d'autres questions aussi. Si jamais tout d'un coup on se met à fabriquer des robots qui sont conscients et qui se comportent comme des êtres humains, quel impact ça aura? Est-ce que démographiquement ça comptera dans la démographie humaine? Est-ce que ça aura des effets de ce genre-là? Très compliqué à mesurer, donc effectivement j'avance un peu à tâtons en m'appuyant sur ce que disent les démographes. Donc dans ce cas-là, j'essaie toujours de m'appuyer sur ce qui semble être consensuel. Ce que je fais aussi d'ailleurs, quand je m'intéresse à une époque reculée où j'ai besoin de savoir quelque chose sur telle société à tel moment, J'essaie de voir quel est le consensus scientifique d'interprétation sur l'état de cette société, comment elle fonctionnait, pour que la théorie soit fondée au mieux. Maintenant, effectivement, je dépends grosso modo de la précision des instruments de mesure, hein, finalement, pour théoriser, de la même manière qu'un astrophysicien dépend de, des observations des astronomes. Je pensais pas qu'il y aurait eu autant de questions sur le volet épistémologique.
Bonjour, merci beaucoup pour c'était vraiment passionnant. Je voulais revenir sur la réputabilité. En fait, il y a un problème, c'est que les étudiants divinisent Karl Popper. Or, Karl Popper aurait rejeté Copernic, puisque les calculs de Copernic étaient moins bons que les calculs des géocentristes qui existaient avant lui. Et donc, c'est pas Karl Popper qu'il faut utiliser, mais plutôt Thomas Kuhn avec la structure des révolutions scientifiques.
Oui, tout à fait. Alors, le problème de Popper, au-delà du fait qu'il le divinise, oui, c'est qu'il l'absolutise, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que, la réfutabilité, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est une mauvaise compréhension de qu'est-ce qu'on peut réfuter et à quel moment. Vous ne réfutez pas toute une science, en général, avec une expérience. Et de ce point de vue, effectivement, Kuhn est beaucoup plus efficace pour comprendre l'évolution globale et le rapport entre le global et le plus précis dans l'histoire des sciences.
Bonjour. Je vais d'abord vous remercier pour vos travaux parce que ça m'a beaucoup éclairé pour comprendre les structures de l'histoire, notamment le parallèle entre la Révolution française et anglaise, qui a été déterminant pour moi pour comprendre pas mal de choses. Ma question sera la suivante. C'est est-ce que vous prenez dans vos travaux la question notamment des classes sociales, parce que par exemple vous, ce que vous appelez les révolutions nationales, moi j'y vois des révolutions nationalistes, c'est-à-dire qu'en fait on voit petit à petit durant le Moyen-Âge, donc à partir je dirais des croisades, c'est-à-dire une classe capitaliste, en fait c'est la classe bourgeoise qui va commencer à émerger et qui petit à petit va saper en fait la propriété de la noblesse, parce que petit à petit elle va devenir de plus en plus puissante, notamment parce que c'est elle qui va réussir à avoir une bonne partie de l'économie, notamment via l'esclavage dans les colonies américaines. Et c'est aussi pour faire le parallèle avec les civilisations C, avec les pays musulmans, donc la Turquie, l'Iran, tout ça qui se développe par l'esclavage. Mais ce que j'avais envie de dire par là également, c'est que l'Europe a aussi eu recours à l'esclavage dans ses colonies pour se développer. Et justement, l'intérêt de ça, c'est est-ce que du coup vous prenez en compte l'idée que par exemple dans l'Antiquité, on avait par exemple des sociétés, je dirais, despotiques, mythologiques, basées sur l'esclavage. Après, on passe à une féodalité avec le servage et la noblesse qui utilise notamment le clergé pour s'imprégner de son idéologie. Et après, en fait, on passe à la bourgeoisie qui, avec la Révolution nationale, prend le pouvoir via l'émergence du parlementarisme qui limite les pouvoirs des seigneurs. Et donc, une fois que le Parlement, en fait, se stabilise, comme vous l'avez dit, en France, France-Angleterre, et puis Turquie-Iran, par exemple, aussi, c'est là où on passe dans un régime bourgeois, c'est-à-dire qu'en fait, la noblesse n'a plus le pouvoir qu'elle avait avant, et donc finalement, elle prend le pouvoir tout simplement via le parlementarisme, en fait. Voilà, après l'évolution nationale.
Alors oui, ça entre en question. Alors, il y a d'autres choses aussi, hein, c'est-à-dire que sur le fait, la question de l'existence du clergé et tout ça, c'est aussi des problèmes structurels très profonds des sociétés. Par exemple, la question de l'existence du clergé, la division du corps social en fonction, c'est quelque chose qui est très, très indo-européen, par exemple. Et donc, c'est aussi probablement une différence qu'il y a entre le monde européen et le monde musulman dans ce que je disais. Ce qui a sans doute favorisé la solution représentation nationale, c'est qu'il y a déjà l'idée qu'il y a des ordres à représenter dans les sociétés indo-européennes, alors que dans le monde arabo-musulman, il n'y avait pas, c'est le monde sémitique en fait, il n'y avait pas ce ressort-là de base, donc ça joue. Après, le travail par classe sociale, oui, ça joue énormément. Maintenant, la bourgeoisie, c'est un petit peu comme ça, on s'aperçoit en fait qu'il y a, on va dire, des bourgeoisies, c'est-à-dire que l'aristocratie dans ces régimes, même il y en a plusieurs, c'est-à-dire qu'il y a d'abord l'aristocratie féodale de base, ensuite vous avez une nouvelle aristocratie, la noblesse de robe en général, qui est une noblesse, une bourgeoisie enrichie qui est encore dans la proximité de la noblesse, et puis vous avez encore une troisième couche qui arrive, qui est avant la Révolution française, et puis vous avez celle qui arrive après la Révolution française, donc clairement, et ça Pareto en parlait déjà sur le cimetière des aristocraties, vous avez une succession comme ça, mais c'est une des choses sur lesquelles en fait je travaille de plus en plus. C'est vrai que moi je suis plutôt parti des évolutions institutionnelles, déjà parce que de base je suis formation historienne des institutions, donc Et puis c'est ce qu'on voit le plus facilement en fait. C'est le plus facile à aller chercher déjà des données économiques, classe sociale ou alphabétisation, comme fait beaucoup. Ça déjà, ça nécessite de. Enfin, on va chercher ce genre de choses qu'une fois qu'on a déjà l'idée que ça peut signifier quelque chose. Voilà. Sinon, c'est trop compliqué à aller chercher. Donc effectivement, on va de plus en plus à la fois en direction de l'économie et de la sociologie finalement.
Oh, bonjour Philippe. J'ai une question pratico-pratique. Concernant l'enrichissement de la théorie historienum avec des disciplines annexes, notamment une approche plus militaire, notamment sur ce qui a été vu courant le 22 au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, où tous les observateurs étaient unanimes sur le fait que la Russie étant la deuxième armée du monde, elle allait pouvoir envahir l'Ukraine et conquérir l'Ukraine en l'espace de 3 mois. 3 ans plus tard, on voit le résultat et on sait ce qu'il en est. Est-ce qu'il est prévu pour enrichir l'approche historienum d'intégrer des connaissances ou quelqu'un qui serait dans la chose militaire pour pouvoir avoir une approche plutôt pratico-pratique?
Alors oui, ça ça serait très utile. D'ailleurs, en plus, l'avantage qu'il y a pour le coup, c'est que les historiens militaires sont probablement ceux qui sont les plus, alors je sais, qui seraient en tout cas, qui devraient d'après moi, être les plus ouverts à l'historienomie, parce que les historiens militaires pour beaucoup, souvent, sont des militaires. Et dans l'idée de l'histoire militaire, il y a beaucoup l'idée de faire du rétex, en fait, et de justement de comprendre, de trouver des solutions pour l'actualité. C'est-à-dire pour aller chercher dans le passé, tiens, les choses avaient évolué comme ça, aujourd'hui, on est un peu dans la même situation, ça devrait évoluer comme ça. C'est totalement hors du logiciel des historiens en général, mais c'est souvent au cœur de l'activité des historiens militaires, en particulier des militaires historiens militaires. Donc là-dessus, il y a pas mal de réflexions à avoir. Maintenant, sur l'étude de la chose militaire et la façon dont ça va évoluer, clairement, moi j'ai toujours essayé d'en faire un petit peu, mais c'est très amateur. Il faut essayer d'aller dans ce sens. Après, pour l'échec de la Russie en Ukraine, on a quand même trouvé des raisons importantes qui pour le coup retournent aux fondamentaux de l'historionomie, c'est-à-dire la population, le peuple comme réalité organique avec une certaine dynamique, et le fait que l'Ukraine était caractérisée comme étant dans le même type de phase, c'est-à-dire même si c'est pas au même niveau que la Russie, ça explique la résistance qui a été opposé, alors qu'effectivement, vu qu'à la base, en faisant un simple parallèle avec la République tchèque, qui elle n'était pas du tout dans ce cas-là, en 1938, il y avait l'idée que ça allait s'effondrer assez rapidement, et finalement, ça n'a pas été le cas. Pour le coup, il y avait effectivement une erreur d'analyse historionomique sur le sujet.
Mais je pense, j'ai discuté avec le COMEX de l'ANR, l'Agence nationale de recherche, et je pense que ce que tu décris est un vrai sujet, c'est-à-dire aujourd'hui, on a les sciences molles qui affrontent les sciences dures. Et même au plus haut niveau de la recherche scientifique, on a un vrai problème aujourd'hui pour faire passer ces sciences molles, les sciences sociales, à des sciences dures. Moi, ma question se pose sur quel est l'état au niveau de toi de travail de recherche que tu as pu faire sur à la fois la construction d'un dataset, parce que la data, au final, est un des éléments hyper importants, un peu comme les fameuses fiches dans la psychohistoire Asimov, et aussi sur la partie modélisation mathématique, parce que dans l'historionomie, il y a Nomos, et dans Nomos, c'est forcément, il y a le lien avec la partie mathématique. Et ce que je pense aussi, qui va dans le sens, je pense, de la création de l'historionomie, c'est que avec l'arrivée d'OpenAI et du travail qui a été fait au niveau des IA, de manière générale, il y a un retour en force et une certaine forme de victoire d'ailleurs d'un courant qui jusque-là était courant assez philosophique, où on analysait plutôt l'analyse des mots, l'analyse du langage, qui a échoué à être en capacité d'ailleurs de créer des modèles génératifs qui, par la vectorialisation et par les mathématiques, ont été en capacité de créer, c'est le travail de Google, mais comment ils ont réussi à créer finalement une IA générative, ce qui était impensable jusque-là. Et donc, de même, ce parallèle vers les mathématiques, c'est voilà, quel est ton rapport à cette partie-là avec les régressions linéaires, etc., pour renforcer la crédibilité de l'historionomie?
Alors, je suis totalement incompétent. Mais justement, l'idée, c'est d'essayer on travaille là-dessus avec Antoine notamment, et dans le canal recherche, on a beaucoup de réflexions. C'est vrai que le travail de l'historionomie de base que je fais, c'est l'équivalent de ce qu'étaient ce qu'on appelle les économistes littéraires, c'est-à-dire c'est ce qu'a été l'économie pendant le premier ou les deux premiers siècles de son histoire, c'est-à-dire véritablement la recherche des principes logiques fondamentaux, et la mathématisation est arrivée assez tardivement. J'espère que pour l'historionomie, ça attendra pas 150 ans, Voilà, on avance en direction, mais compliqué. Il y a des choses que j'essaie de récupérer, que j'avais trouvé à l'époque, notamment les travaux, les quelques modèles qu'avait fait Serge Galam, qui est un scientifique français, qui proposait justement lui la sociophysique, et qui est un petit peu la même idée, mais c'est une approche un petit peu différente sur la façon dont, par exemple, les idées se diffusent, ou la façon dont, au sein d'un corps social, grosso modo, un système électoral met du temps à se renverser. Par exemple, un des modèles qu'il a montre que il faut que 75% de la base soit convaincu de quelque chose pour que ça atteigne enfin le sommet et que tout l'ordre change du jour au lendemain. Donc c'est par là-dessus notamment qu'il essaie d'expliquer la chute de l'URSS, etc. Donc il y a des choses qui sont assez intéressantes. Mais voilà, pour l'instant, on tâtonne dans ces directions-là, quoi. Mais clairement, il faut y aller. Je pense qu'on n'en fera pas l'économie, et pour rendre les choses plus efficaces, c'est ça qu'il faut faire. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'il y a un moment où il faut aussi essayer de trouver des métriques. Par exemple, un des gros problèmes de la physique pendant longtemps, c'est de pas avoir d'instrument de mesure. Simplement, comment faire de la physique si vous ne pouvez pas mesurer les températures, c'est compliqué. En soi, construire des instruments de mesure, des unités de mesure, c'est aussi un défi. J'ai essayé de réfléchir un petit peu dans ça, c'est un petit peu, pour l'instant j'ai rien publié ni rien, d'essayer de réfléchir à une échelle justement sur le modèle de la température, mais c'est très, je tâtonne, quoi, c'est clairement, mais je pense qu'on va finir par trouver des choses.